Bienvenue sur Mpedia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant.
Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de la série Première fois de bébé, proposé par Mpedia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent. Alors nous avons déjà abordé dans cette série des thématiques autour du sommeil, de l'allaitement, de la théorie de l'attachement et de la santé environnement. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces épisodes sur la chaîne YouTube de Mpedia, sur le site de Mpedia, dans la catégorie podcast, ou sur les plateformes d'écoute de podcast. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition avec ce nouveau podcast intitulé « Première cuillerée de bébé, comment bien démarrer la diversification ». Pour cela, nous sommes très heureux d'accueillir le docteur Sandra Brancato. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors docteur, vous êtes pédiatre, membre du groupe nutrition de l'AFPA, l'association française de pédiatrie ambulatoire, et experte sur le site Mpedia où vous répondez à toutes les questions de parents concernant l'alimentation de leur enfant. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Eh bien non, c'est tout parfait. Je suis pédiatre installée en libéral et effectivement, je m'intéresse beaucoup à la nutrition.
Merci beaucoup. En préambule, est-ce que vous pouvez nous rappeler, puisque c'est le sujet, ce qu'est la diversification alimentaire ?
Alors, la diversification alimentaire, c'est scientifiquement le fait de donner autre chose à l'enfant que le lait de sa maman ou du lait, une préparation infantile. Donc, c'est le fait de démarrer avec des céréales, des fruits et des légumes. Donc, c'est tout autre aliment que le lait maternel, infantile ou l'eau.
D'accord. Vous m'avez dit en préparant le podcast que c'était une étape clé dans le développement de bébé. Pourquoi ?
Alors, la diversification doit être menée au bon moment. Alors, il y a déjà le nourrisson qui doit être prêt sur le plan physiologique. Donc, avant 4 mois, les risques sont notamment de développer des allergies qui peuvent être importantes. Son système digestif est fait pour digérer du lait et pas autre chose. Ensuite, il y a des enjeux psychomoteurs, hein, puisque le nourrisson, lorsqu'il a 4 mois, présente déjà une bonne tenue de tête. Il développe une coordination main-bouche, il met tout à la bouche et il commence sa phase orale. Donc, c'est une phase où il se prépare aussi à l'alimentation. Et enfin, il y a un impact nutritionnel parce que dès le début de la diversification, il est primordial d'apprendre et de prendre des bonnes pratiques en nutrition, les 1000 premiers jours étant effectivement déterminants sur la santé et la future bonne santé adulte de l'enfant, en fait.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est la période des 1000 premiers jours ?
Bien sûr, la période des 1000 premiers jours, alors d'un point de vue nutritionnel, c'est une période qui englobe la vie fœtale et les 2 premières années de vie, pendant lesquelles la nutrition aura un rôle majeur sur le devenir adulte et la santé de l'enfant. Il y a une forme de programmation métabolique et bien manger pendant cette période, ça permet aussi de prévenir un grand nombre de maladies métaboliques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires, le surpoids et l'obésité. Et il est donc important de sensibiliser les femmes enceintes sur leur propre façon de s'alimenter et ensuite de respecter les conseils nutritionnels sur les 2 premières années de vie.
D'accord, merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'est vrai que c'est un enjeu majeur. Donc l'alimentation a un impact sur la santé présente et future de bébé. On va maintenant rentrer dans le concret, puisque vous allez nous donner des astuces pour réussir, entre guillemets, cette étape. Tout d'abord, à quel âge est-il recommandé de démarrer la diversification alimentaire ? Vous avez parlé de 4 mois, là ?
Tout à fait. Donc, on ne démarre pas avant 4 mois. Le bébé n'est pas suffisamment mature d'un point de vue physiologique. Il y a donc des risques allergiques, notamment. Il faut donc attendre 4 mois révolus. Et puis ensuite, entre 4 et 6 mois, c'est une période propice dans le cadre de son développement global et qui permet la diversification alimentaire. C'est la bonne période pour diversifier. Après 7 mois, c'est aussi un peu tard et on risque des carences, notamment en fer. Et les carences en fer ont des conséquences sur le développement psychomoteur de l'enfant.
D'accord, donc entre 4 et 6 mois révolus, est-ce que c'est la même tranche d'âge pour tous les enfants ?
Oui, même ceux à terrain allergique, c'est la même tranche d'âge pour tous les enfants. Le bémol, ce sera effectivement les enfants nés un peu, voire beaucoup avant terme. Donc les grands prématurés surtout.
D'accord. Alors si on parle des prématurés, donc ça veut dire qu'on parle plus en âge réel, on parle en âge corrigé pour eux ?
Alors en tout cas, on parle en âge corrigé pour beaucoup de choses et surtout on va distinguer 2 types de prématurés. Les prématurés tardifs qui sont nés après 34-35 semaines. Et là, la différence sera assez peu visible avec des bébés à terme. Cependant, il est important d'attendre que le bébé ait un bon tonus axial et qu'il soit capable de mettre en place une bonne coordination main-bouche. Donc, ce sera peut-être plutôt vers 5 mois que vers 4 mois, mais la différence n'est pas très importante. Par contre, pour les grands prématurés, il est classique de dire qu'on ne les alimentera pas et qu'on ne démarrera pas la diversification avant 3 mois d'âge corrigé. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, un bébé qui est né à 26 semaines d'aménorrhée, lorsqu'il aura 4 mois d'âge réel, son âge corrigé sera seulement de 1 mois. Et donc, son développement neuromoteur ne sera pas compatible avec un début de diversification. Il faudra probablement attendre qu'il ait plutôt 6 ou 7 mois d'âge réel, ce qui correspondra à 3-4 mois d'âge corrigé.
D'accord. Et ça, c'est des questions qui se voient avec le professionnel de santé qui suit le bébé.
Il est important de voir avec le médecin qui va suivre l'enfant quelle va être la période de développement psychomoteur qui permettra de vivre une expérience agréable pour tout le monde.
Est-ce qu'il y a une différence dans l'introduction, enfin l'âge, entre les bébés allaités et non allaités ?
Non, il n'y a aucune différence. La diversification peut très bien être réalisée entre 4 et 6 mois de la même façon. Alors après, effectivement, les recommandations de l'OMS, c'est de dire que l'allaitement se fait sur les 6 mois et on débute la diversification au 6e mois. Mais pas d'affolement, une maman qui allaite peut commencer la diversification à 4 mois sans souci particulier.
D'accord, merci beaucoup. Donc on a vu qu'il fallait vraiment commencer la diversification en fait une fois que le bébé est prêt d'un point de vue développement neuromoteur. Et on va rentrer un peu plus dans le concret. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour débuter les aliments, et si oui, par quels aliments faut-il idéalement commencer ?
Alors, les nouvelles recommandations du plan national nutrition santé ne nous donnent pas d'ordre particulier sur l'introduction des aliments et nous précisent qu'il n'y a pas d'ordre. Par contre, il vaut mieux peut-être conseiller de faire progressivement en introduisant d'abord plutôt le salé que le sucré. Et il y a quelques études scientifiques qui permettent de montrer qu'un nourrisson qui reçoit en premier les légumes pendant les 10-15 premiers jours de la diversification aura ensuite une meilleure acceptabilité globale des légumes. Donc, au cabinet médical, moi, je conseille encore de commencer par les légumes et si tout se passe bien, 10-15 jours après, de faire les fruits et d'aller rapidement ensuite sur les autres aliments.
Est-ce qu'il y a des légumes en particulier avec lesquels il faut commencer ?
Alors, tous les légumes peuvent être donnés avec la précaution peut-être qu'il faut introduire progressivement surtout les légumes les plus fibreux et les moins bien tolérés. Donc, par exemple, on commence volontiers par les carottes, la courgette, la betterave, les épinards, les haricots verts, le potiron. Ce sont des légumes relativement bien acceptés, peu fibreux et bien digérés. Et puis, on attendra peut-être un petit peu plus et on les introduira doucement. Pour ce qui concerne les vers de poireaux, les vers de blettes, les choux par exemple, qui vont avoir tendance à donner des ballonnements, une accélération du transit et qui vont peut-être entraîner un inconfort. Mais bon, après, il y a plein de nourrissons qui tolèrent parfaitement tous les légumes sans problème.
Est-ce qu'il faut mieux proposer plusieurs fois le même aliment, enfin le même légume, ou changer chaque jour ?
Alors, il est préférable de changer chaque jour ou chaque 2 jours suivant l'organisation familiale, hein. Mais en reproposant régulièrement à l'enfant, surtout lorsqu'il n'apprécie pas. Parce que parfois, il faut 8 à 10 présentations pour qu'un nourrisson apprécie l'aliment proposé. Donc, on ne forcera jamais, mais il faut savoir persévérer.
Il ne faut pas se décourager. Sous quelle forme on propose les légumes ?
Alors, au début, on va commencer par des purées bien lisses, hein, bien sûr. Il est tout petit, hein, donc il ne sait pas encore ni mâcher, ni déglutir des petits morceaux, ce qui risque d'entraîner des petites toux, voire même des haut-le-cœur. Donc, au départ, purée bien lisse, avec une petite cuillère qui est adaptée à l'enfant, hein, donc une cuillère d'un petit format.
Souple, oui.
Et souple, voilà, et puis de plus en plus texturé avec du granuleux, de l'écraser à la fourchette, du couper en petits morceaux. Et puis, on va évoluer vers l'introduction des morceaux en s'adaptant à l'enfant, bien sûr, mais on n'attend pas non plus, on n'attend pas qu'il ait toutes ses dents, sinon ça fait beaucoup trop tard.
D'accord, d'ailleurs, ça fera l'objet d'un prochain podcast, l'introduction des morceaux, parce que c'est un sujet qui peut inquiéter les parents. Donc, on se retrouvera un peu plus tard sur ce sujet-là. Vous parliez tout à l'heure de 10 à 15 jours, donc une fois qu'on a introduit les légumes, vous recommandez d'introduire les autres catégories d'aliments au bout de 10-15 jours, c'est ça ?
Tout à fait, une fois les légumes débutés, on peut conseiller le rythme de 10 à 15 jours en introduisant les fruits, puis 10 à 15 jours après les protéines animales, viande, poisson, œufs, puis 10-15 jours après les sucres complexes sous forme de féculents, de céréales et de légumineuses, etc. pour tout type de catégories d'aliments en fait. Hein.
Et les lipides, et quand est-ce qu'il faut les introduire ?
Dès le départ. on met des lipides dès que l'on commence à donner des légumes. Alors, c'est sûr que quand il prend que 2-3 cuillères à café, c'est pas encore là où on va pouvoir ajouter une cuillère à café de lipides. Mais dès que l'enfant est capable de manger des quantités qui vont être l'équivalent d'un demi-pot pour bébé, on met une cuillère à café d'huile végétale avec, on alterne avec le colza, l'huile de colza, l'huile de noix, un petit peu de beurre de temps en temps, sauf pour les enfants allergiques aux protéines de lait de vache. Hein, et on met des lipides à chaque repas. Donc, c'est-à-dire que si on fait un repas par jour, on met une cuillère à café. Et puis, quand l'enfant est plus grand et qu'on fait deux repas par jour, on met une cuillère à café dans chaque repas jusqu'à l'âge de 1 an. À partir de 1 an, on mettra un peu plus, on mettra 2 cuillères à café de lipides dans chaque repas.
Il y a une question qui revient aussi souvent des parents. Comment on fait pour introduire les céréales qui sont normalement introduites dans le biberon? Mais comment introduire les céréales quand on allaite?
Alors, effectivement, les céréales peuvent être introduites dès le début de la diversification dans les biberons de lait infantile. Et puis, pour l'allaitement, on pourra les débuter différemment. On peut les mélanger avec des fruits en compote, par exemple. Et puis, on peut aussi utiliser du lait maternel tiré pour réaliser une sorte de bouillie, c'est-à-dire qu'on va épaissir le lait maternel et le donner à la cuillère, puisque ce sont des enfants qui ne prennent pas le biberon.
On a vu qu'on pouvait donner tous les légumes, mais est-ce qu'il y a des aliments à éviter? Et si oui, lesquels?
Alors, bien sûr, les légumes crus, au début, chez le tout petit, ça passe pas très très bien parce qu'il ne peut pas mâcher. Donc, on les proposera plus tard quand il sera capable de croquer et de mâcher. Ensuite, on va éviter tout ce qui est viande, poisson, œufs crus. Donc, pas de crus avant 5 ans parce qu'il y a un risque infectieux. Les fruits frais et bien mûrs peuvent être mixés crus dès le début de la diversification, sans problème particulier. Et puis, on évitera aussi les fromages au lait cru avant 5 ans. Pareil. C'est un risque infectieux, donc le cru dans l'alimentation, on y va avec grande précaution.
J'avais lu aussi qu'il fallait éviter le chocolat.
Alors, ce n'est pas qu'il faut l'éviter, on peut l'introduire dès 6 mois sans problème particulier, le chocolat, avec la réserve qu'actuellement, les fèves de cacao présentent un problème de pollution en métaux lourds. Il faut donc limiter le chocolat et préférer le chocolat au lait chez l'enfant. Et quand on l'introduit en petite quantité.
Est-ce qu'il faut privilégier, alors quand c'est possible, hein, bien entendu, mais le fait maison ou le bio?
Alors, le fait maison offre de nombreux avantages. Hein. C'est moins cher, c'est plus varié, c'est plus goûteux. On a plus de facilité à faire goûter une immensité de différents légumes, alors que dans l'alimentation pour bébé, on est assez restreint. Ça a aussi une dimension sociale, hein, avec le plaisir qu'auront les parents à préparer le repas pour leur enfant. L'utilisation de produits issus de l'agriculture biologique est alors effectivement conseillée. C'est pareil pour les circuits courts, hein. On cherche des produits de saison, on cherche des produits locaux. Et donc ça, c'est pour le bien-être de la terre. Mais ça a aussi des avantages et des bénéfices santé, en plus d'avoir des bénéfices pour la planète. Voilà. Les aliments industriels pour le bébé gardent quand même l'avantage d'être sécurisés et de répondre à une charte de qualité. Ce sont des aliments très contrôlés, ce sont des aliments qui sont adaptés à la nutrition du jeune enfant et qui respectent les besoins nutritionnels. Ils doivent être utilisés chez les enfants de moins de 3 ans. Et les produits industriels de type adulte sont inadaptés, peu contrôlés en pesticides, en colorants, en additifs, en taux de sel. Et il est fortement déconseillé de les utiliser avant 3 ans.
D'accord, donc 6 aliments industriels, vraiment les aliments qui sont faits pour le bébé.
C'est ça, des aliments qui sont faits pour le bébé et qui ont un logo convient à l'alimentation du moins de 3 ans.
Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de menu type? Parce que les parents se demandent beaucoup. D'ailleurs, on peut retrouver beaucoup d'articles sur les menus types sur Mpedia, mais comme on en sent peut-être un exemple pour un bébé de 6 mois.
Bien sûr, avec grand plaisir. Alors déjà, juste je précise une chose, c'est qu'il est important que les parents ne se fixent pas toujours à ce menu type et qu'ils puissent aussi avoir un peu d'imagination. Mais quoi qu'il en soit, si on pouvait proposer un menu type, ça serait le matin, un bébé à 6 mois, il va prendre soit une tétée au sein, soit un biberon de lait infantile. Deuxième âge, on passe au deuxième âge dès lors que l'enfant a un repas complet. Lorsqu'il fait un repas complet, il peut passer au deuxième âge. Donc, la quantité moyenne du biberon, ça ira de 180 ml à 240 ml et on s'adapte à la faim de l'enfant. Il y a des petits mangeurs, des grands mangeurs, donc on ne force jamais. Et dans ce biberon de lait infantile, on peut mettre 1 à 2 cuillères à café de céréales infantiles avec gluten. Donc ça, c'est pour le matin. Le midi, donc, alors je rappelle que le midi, c'est un horaire social et là encore, on s'adapte au nourrisson. On n'est pas obligé de manger à midi. On mangera donc des légumes et des sucres complexes jusqu'à 200 grammes, avec une proportion de 1 quart à 1 tiers de féculents pour 3 quarts à 2 tiers de légumes, une cuillère à café de lipides, on en a parlé, hein, de graisse végétale ou du beurre en alternance, et 10 grammes de protéines animales type viande ou poisson ou œuf bien cuit. Voilà, en dessert, on peut proposer des fruits mixés, des fruits en compote, hein, cuits ou crus. Et souvent, les nourrissons, encore si petits, ont besoin de téter au sein ou au biberon. Et ça ne pose aucun problème, on suit le rythme de l'enfant. S'il en a besoin, on propose un biberon. Et s'il n'en a plus besoin, on peut arrêter le biberon à midi et faire un repas complet à la cuillère.
Comment on peut savoir s'il en a encore besoin ou pas ?
Ça, en général, on voit bien qu'à la fin du repas, le bébé il a besoin d'autre chose. On propose un biberon et il tète facilement, même ne serait-ce que 90 ml. Donc, on peut le laisser téter encore un peu de lait à 6 mois. Au goûter, on propose la tétée au sein ou un biberon de 120 à 150. Hein, bah après, toujours pareil, hein, les gros mangeurs, ils peuvent manger plus. Les petits mangeurs, ils prendront que 90. Ensuite, on propose des fruits en compote. Et pourquoi pas, on peut compléter avec un petit laitage adapté à son âge. Et le soir, c'est toujours pareil, une tétée au sein ou un biberon de 180 à 240 ml avec une à deux cuillères à café de céréales avec gluten. Et les bons mangeurs, on pourra compléter avec une compote. Et une alternative pourra être de donner une assiette légumes féculents d'environ 120 à 150 grammes avec une cuillère à café de lipides et derrière une tétée au sein ou un biberon. Mais toujours pareil, il faut aussi s'adapter à l'enfant et puis surtout, il faut varier les menus et faire en sorte que ça ne soit pas monotone, que ça ne soit pas toujours la même chose.
Alors si je résume un peu ce qu'on vient de se dire, c'est déjà très riche. Donc on commence la diversification entre 4 et 6 mois révolus. Mm-hmm. Il n'y a pas d'étude d'ordre à respecter, mais d'après votre expérience en cabinet, il vaut mieux commencer par le salé puis le sucré. Mm-hmm. On peut donner tous les aliments, donc sauf crus, à tous les enfants, même ceux qui ont des terrains allergiques. Alors pour les enfants prématurés, voire en fonction de l'âge réel et l'âge corrigé. Et puis commencer par des petites quantités et augmenter au fur et à mesure, mais toujours en respectant l'appétit de l'enfant.
C'est ça, tout à fait. C'est un bon résumé. Et je rajouterai convivialité, plaisir, diversité.
Et puis la diversité aussi dans les textures, vous avez commencé à en parler. On peut commencer à les sensibiliser, enfin sensibiliser les enfants à partir de 6 mois en proposant des purées moins lisses, des quignons de pain, etc.
C'est ça, le biscuit à la main, tout en contrôlant bien sûr qu'il l'utilise à bon escient et avec une sécurité. C'est un parent à côté, l'enfant bien assis et sans distraction. Mais effectivement, on peut commencer à donner des morceaux dès l'âge de 6 mois.
Alors là, on a parlé de la diversification dite classique, mais on entend parler de plus en plus de la DME, la diversification menée par l'enfant. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est que la DME ?
Alors, la diversification menée par l'enfant, c'est une forme de réinvention de comment introduire les morceaux. En fait, c'est plutôt une mode qu'un principe scientifique validé. C'est une mode qui consiste à ne pas donner de purée à la cuillère et à laisser l'enfant s'alimenter tout seul dès lors qu'il tient assis. La problématique, c'est que un enfant peut tenir assis très tôt, mais il peut aussi tenir assis qu'à 7-8 mois. Et on sait que la diversification tardive pose aussi d'autres problèmes de carence et il est important de ne pas attendre trop longtemps. Donc la diversification menée par l'enfant peut avoir effectivement des avantages, mais elle a aussi beaucoup d'inconvénients. Donc nous ne recommandons pas la DME telle qu'elle est dictée par cette mode qui circule sur les réseaux sociaux. Par contre, on est bien clair qu'elle ne présente aucun avantage par rapport à une diversification normale et bien faite. Si l'on doit retenir quelques avantages de la DME, ce serait faire manger l'enfant avec la famille, c'est-à-dire la convivialité, partager les aliments de la table familiale, c'est moins cher, mais attention, il faut adapter tous les repas familiaux aux besoins du nourrisson et pas l'inverse. Ça permet de faire manger des morceaux plus tôt au nourrisson, donc ça on voit que c'est important aussi. Par contre, la DME présente des inconvénients, c'est qu'elle commence souvent un peu tard et puis il faut attendre que l'enfant soit bien assis et il y a le risque aussi d'inhalation de morceaux qui doit être enseigné aux parents et on doit aussi leur renseigner comment on fait pour désobstruer et désenclaver un morceau dans la gorge. Voilà. Donc la DME, c'est un peu ce que faisaient nos grands-mères naturellement et bien sûr qu'il faut laisser l'enfant manger avec ses mains et manger des morceaux dès qu'il est prêt. Mais pour autant, il faut aussi lui proposer une diversification classique entre 4 et 6 mois et ça ne gênera pas du tout à son évolution.
Oui, moi je vois un autre frein, c'est si on laisse un peu l'enfant se débrouiller tout seul, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a des carences, pas de carences. On a vu quand même qu'il y a eu des quantités recommandées, même si ça dépend de l'appétit de l'enfant, mais des quantités recommandées par rapport à ses besoins nutritionnels. Et c'est vrai qu'avec la DME, on ne sait pas complètement ce qu'il mange.
C'est ça, c'est surtout au début en fait. Hein, on voit dans certaines études au début de la DME qu'il peut y avoir des carences, notamment une carence calorique, c'est-à-dire qu'il ne mange pas assez en calories, une carence en fer parce qu'il ne mange pas d'aliments suffisamment riches en fer au départ. Or ça va se lisser, se gommer quand l'enfant grandit, mais n'empêche qu'il y a une période où on peut avoir des carences qui auront une répercussion sur sa santé future.
Quand on a parlé de DME, vous avez commencé à parler de convivialité, de repas à la table familiale. Et on va un peu plus rentrer dans le détail car l'environnement est très important aussi pour réussir la diversification. Déjà, à quel repas il faut idéalement introduire les aliments quand on démarre?
Alors, socialement, ce sera plus souvent au repas de midi pour les légumes et au goûter pour les fruits. Mais il est parfaitement possible de débuter le soir, notamment pour des parents qui travaillent et qui ont envie de vivre l'expérience avec leur enfant et de ne pas déléguer à la crèche ou à l'assistante maternelle. Et donc, il n'y a aucun problème pour commencer la diversification le soir.
Est-ce qu'il faut mettre en place un environnement spécifique? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques?
Mais bien sûr, il y a des bonnes pratiques. Le repas, si possible, c'est en famille, hein. Sans aucune distraction, il n'y a pas de jeu à table, il n'y a pas d'écran qui vient perturber le repas, mais ça c'est tout aussi important pour les grands-enfants et les adultes. Et puis on peut laisser l'enfant mettre un peu ses mains dans la nourriture, attraper la cuillère tout seul, se familiariser avec la nourriture qu'il va porter à sa bouche, mais qu'il va aussi porter à son nez pour sentir. Et puis il va regarder, il va voir les couleurs. Donc tout ça, c'est un éveil sensoriel qui est très important. On ne forcera jamais l'enfant, mais on proposera plusieurs fois. Donc ça, c'est la persévérance pour qu'il aime effectivement une grande diversité d'aliments. Et enfin, on essaye de ne pas essuyer la bouche du bébé à chaque bouchée, parce que ça, ce sont des stimulations très désagréables et souvent mal tolérées par le nourrisson qui peut se mettre à pleurer et à refuser la cuillère et la nourriture par des stimulations et cette dysoralité qui le perturbe. Donc en fait, l'enfant, on le laisse manger, il en a de partout, mais on l'essuiera à la fin du repas. Et on évite de lui gratter la cuillère à chaque fois sur la bouche pour lui racler les lèvres. Et il y a des enfants que ça dérange pas, mais il y en a d'autres qui sont très sensibles.
Oui, c'est vrai, on pense pas souvent que c'est ça qui va empêcher après une bonne acceptation de la cuillère. Alors vous dites qu'il ne faut pas forcer, qu'il ne faut pas jamais forcer un bébé, mais s'il refuse catégoriquement de manger, s'il refuse tout ce qui est salé ou toutes les purées, c'est vrai que les parents ils sont souvent inquiets sur un risque de carence, hein, dont on parlait d'ailleurs auparavant. Et on a parfois un peu tendance quand même à insister, à forcer, voire se fâcher. Donc ça, il faut pas le faire, c'est ça.
Non, on force pas, on se fâche pas, parce qu'en fait, tout forcing alimentaire induit derrière des comportements après de refus encore plus importants. Et l'enfant va garder en mémoire cette expérience très désagréable. Donc, un nourrisson de 4 mois qui refuse tout, pas d'affolement, on attend plus, on attend un mois de plus, voire 2 mois de plus, et on réessaie à nouveau vers 5 mois, vers 6 mois. Par contre, effectivement, si à 6 mois révolus, l'enfant continue de refuser la diversification et l'alimentation, là, moi, je conseille d'en discuter avec un professionnel de santé pour essayer de comprendre, hein, de mettre en lumière les raisons qui sont parfois évidentes, hein, du refus. Et puis, en attendant, on pourra mettre en place une diversification en mettant progressivement dans le biberon, tout en continuant, mais sans forcer, de proposer des aliments à la cuillère. Et puis un nourrisson qui pleure et qui détourne le visage de la cuillère au-delà de l'âge de 7 mois, c'est un trouble de l'alimentation pédiatrique. Il ne faut pas banaliser, il faut le prendre en charge.
Donc en fait, il ne faut pas s'inquiéter si un bébé refuse au début les aliments qu'on lui propose, tout au début de la diversification. En revanche, si le refus persiste de l'âge de 6-7 mois, il faut en discuter avec un professionnel de santé.
C'est ça, exactement. Il ne faut pas laisser les choses s'enquister, il ne faut pas laisser les choses se banaliser. Il faut arrêter de dire, mais il mangera, madame, un jour, il mangera tout, il n'y a pas de problème. Parce qu'on se rend compte qu'après, on a des enfants à 3 ans, en fait, ils sont très, très sélectifs, ils mangent très peu de choses, ils ne savent pas mâcher. Donc, on a finalement raté le coche à ce moment-là. Et c'est là où on peut inverser la tendance et remettre en place une alimentation normale.
On va arriver à la fin de nos échanges. Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire aux parents qui nous écoutent?
Ben, la première chose, c'est déjà effectivement d'attendre le moment propice où quand l'enfant est prêt, ça sera toujours plus facile. Il faut que les parents se fassent confiance. Il faut aussi faire confiance à l'enfant et à l'appétit de l'enfant. Il y a des enfants qui ont des petits appétits, d'autres des gros appétits, mais ça, c'est physiologique et on n'y peut rien. Donc, il faut bien respecter son appétit. Il faut aller vers de la diversité, vers de la convivialité. Et puis, il faut aussi savoir persévérer sans forcer. Il faut aussi donner l'exemple, hein, papa et maman, s'ils ne mangent jamais un aliment eux-mêmes à table, ils peuvent ne pas espérer que l'enfant le prenne. Donc, il faut donner l'exemple et s'astreindre à manger des fruits et des légumes. Et puis, il ne faut pas attendre trop longtemps pour introduire les morceaux. En tout cas, au-delà de 8-10 mois, il faut commencer les textures granuleuses, il faut commencer les petits morceaux, il faut commencer les morceaux à la main et permettre à l'enfant, en lui faisant confiance, de développer sa mastication.
D'accord, merci beaucoup docteur Brancato, et puis on va bientôt se retrouver hein, puisqu'on va faire un prochain podcast autour de la nutrition, et cette fois on parlera plus particulièrement de l'introduction des morceaux dont vous avez commencé un peu à parler pendant ce podcast. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt.
Merci, à bientôt.
C'était un podcast proposé par M-Pédia, spécialiste de l'enfant et de l'adolescent.
Merci pour votre écoute. C'était M-Pédia Podcast, votre rendez-vous avec des spécialistes de l'enfant.